On va continuer notre étude de l'histoire du mouvement de Pentecôte au XXe siècle. On avait vu les débuts donc en Scandinavie et on va continuer donc dans le reste du continent européen d'abord. Le pays suivant, pas obligatoirement dans une chronologie très stricte, mais le pays suivant qui a été touché par le mouvement de Pentecôte est l'Allemagne, ou les pays, disons, les pays de langue germanique. Allemagne, Autriche et Suisse alémanique. En fait, depuis les origines, depuis le réveil du pays de Galles, disons, des pasteurs allemands venaient régulièrement participer aux conventions qu'il y avait là-bas, puis ensuite aux conventions de Sunderland en Angleterre, où se faisaient les rencontres de Pentecôte pour ce qui est des îles britanniques. Parmi ce groupe de pasteurs allemands, il y en avait un qui se nommait Jonathan Paul, qui était originaire de Berlin et qui s'est rendu en Norvège dans l'église de Tibibarat. Là, il a entendu le message de Pentecôte et il s'est converti d'abord, puis il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Jonathan Paul était pasteur de l'église luthérienne allemande, donc à Berlin. Et en rentrant, donc, il a prêché dans cette église le message de Pentecôte. Bien entendu, ça n'a pas duré très longtemps et il a été amené à donner sa démission assez rapidement et faire le saut de la foi. Et c'est ainsi que Jonathan Paul est devenu le pionnier de l'œuvre de Pentecôte dans les pays alémaniques. Il a été secondé en cela par le pasteur Vosger de Bünde, on dit B-U-N-D-E. Oui, c'est ça. Et c'est ainsi que dès l'année 1908, a eu lieu à Mülheim, je pense, la première convention nationale du mouvement de Pentecôte allemand. Un autre pasteur avait rejoint le mouvement de Pentecôte et c'était celui qui avait présidé cette convention, ça me faisait Émile Homburg, H-O-M-B-O-U-R-G. Et le mouvement de Pentecôte s'est répandu en Allemagne comme une véritable traînée de poudre pendant cette période-là, c'est-à-dire la période qui a précédé la Première Guerre mondiale. Et c'est ainsi que, dès 1912, le pays était quadrillé d'œuvres de Pentecôte. De là, le mouvement s'est transporté en Suisse et les pasteurs allemands et suisses alémaniques essentiellement, ont éprouvé aussi, ont entendu de la part du Seigneur, du Saint-Esprit, un appel pour créer une organisation missionnaire à destination de la Chine. Non pas qu'à cette époque-là, la Chine n'était pas évangélisée, bien sûr. C'était encore la pleine période on était encore sur la lancée d'Hudson Taylor. On venait de connaître le réveil qui avait suivi la guerre des Boxers, mais le mouvement de Pentecôte, le message de Pentecôte n'avait pas encore touché ce grand continent. Et c'est ainsi que les pasteurs alémaniques, disons, germanophones, ont posé la question d'une organisation missionnaire européenne, pourrait-on dire, notamment avec le but d'envoyer des missionnaires en Chine. Et la rencontre suivante de l'année 1909, donc à Sunderland, a posé les bases de la création donc, d'une union missionnaire. Le président de cette union missionnaire était le pasteur Cécile, qui reposait sur des principes absolument identiques à ceux du Saint Taylor, donc la mission à l'intérieur de la Chine, c'est-à-dire les missionnaires partaient là-bas dans une perspective de vie par la foi essentiellement. Dans la même période, le réveil se poursuivait également en Angleterre, notamment à partir de ces conventions de Sunderland. Et c'est ainsi que, en mars 1909, au 9 place de Gloucester à Londres, a été créé un premier collège pentecôtiste qui portait le nom de Collège de Sion. En 1909, Barat est revenu en Angleterre pour une tournée dans les églises anglaises. N'oublions pas que Barat était lui-même d'origine anglaise. Et il revenait d'un grand voyage qu'il avait emmené au Moyen-Orient et en Inde. Et c'est alors que, à l'occasion du passage de Barat en Angleterre, a été créé un journal qui devait être l'organe du mouvement de Pentecôte anglais et qui se nommait le Pentecostal Evangel. Ce Pentecostal Evangel était déjà aussi, enfin était une branche, si j'ose dire, de son équivalent aux États-Unis. Notamment, c'était l'organe des Assemblées de Dieu américaines. À son retour donc en Norvège au printemps de 1909, après être passé en Angleterre, Barat est allé prêcher et retourner en Suède, d'abord en route pour la Norvège, et il s'est arrêté à Örebro. Örebro, qui était une ville située à quelques distances de Stockholm, au sud de Stockholm, et dans laquelle il y avait une forte implantation baptiste. Les baptistes suédois avaient alors une rencontre nationale qui se tenait à Örebro. Ils avaient invité Barat pour leur expliquer ce qu'était finalement ce nouveau mouvement de Pentecôte. Et c'est ainsi qu'un réveil a éclaté au sein des baptistes suédois. Et toute une partie du mouvement baptiste suédois est devenu charismatique, s'est ouvert au message de Pentecôte. Et alors, a commencé pour le mouvement baptiste suédois une période extrêmement difficile, dans la mesure où une majorité de pasteurs baptistes ont refusé le message de Pentecôte. Mais une minorité extrêmement importante quand même, qui représentait quand même près de 40% des baptistes suédois, qui étaient quand même très nombreux, a accepté le réveil. Si bien que, peu après le départ de Barat, a eu lieu une scission au sein du mouvement de baptiste suédois, et la partie charismatique, pentecôtisante, disons, s'est séparée. Alors, s'est posé pour elle le problème, devait-elle se rattacher au mouvement de Pentecôte suédois dont Lewi Petrus était le leader? Finalement, il a été décidé de créer une union d'église baptiste, charismatique, on n'employait pas ce mot à cette époque-là, mais enfin c'était un petit peu ce qui était derrière, une deuxième union d'église baptiste, qui a pris le nom de Mission d'Örebro, puisqu'elle a transporté son quartier général précisément dans cette ville où le réveil avait éclaté. La Mission d'Örebro, comme son nom l'indique, avait aussi une vision missionnaire très forte. Et elle a consacré l'essentiel de son activité à une activité missionnaire, estimant à juste titre que, d'une part, la présence des baptistes non charismatiques faisait qu'il n'était pas nécessaire de répandre davantage le message baptiste en Suède et que essayer de créer de nouvelles églises en Suède serait marcher sur les plates-bandes de leurs frères. Et on en espérait malgré tout qu'un jour une réconciliation serait possible, ce qui fut le cas dans la suite du temps. Je ne suis pas certain que la mission de Örebro continue encore à avoir son autonomie, mais enfin, en tout cas, elle a des liens très étroits maintenant avec les baptistes normaux. Et deuxièmement, la présence d'un important mouvement pentecôtiste rendait inutile aussi la diffusion du message en Suède même. Et donc, les représentants du mouvement de Örebro ont décidé de s'orienter davantage sur la mission. Et ils ont eu deux grands axes à cette période-là. Premièrement, enfin essentiellement l'Amérique du Sud, et plus particulièrement le Chili. Le Chili, où ils ont eu un succès très important, notamment dans les milieux de l'Église épiscopale du Chili et de l'Église méthodiste. Et sous l'impulsion des missionnaires suédois, un grand réveil a éclaté au Chili, qui a été le point de départ de l'œuvre de Pentecôte en Amérique du Sud, qui sera appelée dans les années suivantes à un très très grand succès. Et notamment au Chili, c'est plusieurs centaines de milliers de Chiliens qui se sont tournés vers le message de Pentecôte. Bon, ça a aussi évidemment créé des tensions avec les églises officielles. Et ce qui s'est passé un peu partout s'est produit également au Chili, c'est-à-dire qu'il a fallu rompre avec les églises officielles. Et c'est ainsi que s'est créée au Chili une très importante église de Pentecôte. Maintenant, cette église pentecôtiste chilienne, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, a ceci de particulier, c'est qu'étant issue d'églises épiscopales et méthodistes, qui étaient des églises pédobaptistes, baptisées les enfants, on a continué jusqu'à aujourd'hui à baptiser les enfants dans les églises pentecôtistes du Chili. Bon, c'est une particularité comme ça qui reste. Et en 1907, le réveil avait éclaté en Inde, d'une manière, pourrait-on dire, quasi spontanée, après un an de recherche des choses du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, peu après, le pasteur Bharat s'était rendu en Inde, puis ensuite était revenu par le Moyen-Orient pour affermir l'œuvre de Dieu en Inde. Et par conséquent, dès le début du siècle, il y a eu en Inde un foyer pentecôtiste extrêmement important. Et c'est à cette époque-là aussi que, en Angleterre, des oppositions très fortes ont eu lieu au mouvement de Pentecôte, et notamment un pasteur pentecôtiste a été accusé de faire boire à son auditoire un breuvage mystérieux appelé le sang de l'agneau. Bon, c'était évidemment, vous l'imaginez bien, la Sainte Cène. Mais ce pasteur a été traduit devant les tribunaux, et bien sûr ça s'est terminé par un non-lieu. Mais enfin, c'est pour vous dire quelle était l'atmosphère qui régnait à cette époque-là, donc à l'encontre du mouvement de Pentecôte. À partir de 1909, en Angleterre, certains pasteurs ont fait part à la convention annuelle de leur souhait de voir se créer une école biblique pour former les ouvriers. Il faut dire qu'il y avait à cette époque-là, en Angleterre notamment, mais un peu partout, un grand enthousiasme qui étreignait donc de nombreux jeunes gens qui se levaient pour le ministère. Il faut dire aussi que les besoins étaient grands. On peut dire que les églises poussaient comme des champignons et il leur fallait des bergers assez rapidement. Tant et si bien que beaucoup de jeunes gens se trouvaient propulsés dans le ministère pastoral avec des capacités intellectuelles, des connaissances bibliques restreintes, des capacités intellectuelles qu'ils ne l'étaient pas moins, et parfois aussi des qualités humaines. Il y avait donc un niveau qui était assez bas du corps pastoral pentecôtiste à cette époque-là. On pensait, en général, dans les milieux pentecôtistes, que l'onction du Saint-Esprit allait permettre de pallier à ces insuffisances-là. Et ce que l'on exigeait des candidats au ministère était davantage, une piété, bon, une sainteté, c'est tout à fait juste, ils avaient tout à fait raison d'insister là-dessus, c'est vrai. Mais si on trouvait cela, le reste importait peu dans la mesure où le Saint-Esprit allait donner sur l'heure les paroles dont on avait besoin. On oubliait simplement que ça c'était dans des conditions très particulières, celles où les disciples du Seigneur seraient traînés devant les tribunaux, ce qui, heureusement, mis à part cette grotesque histoire du sang de l'agneau, se produisait assez peu souvent en Angleterre. Donc, il y avait quand même, au bout d'un temps, on s'est rendu compte que, pour importante que soit l'onction de l'esprit, elle ne palliait pas à toutes les insuffisances du corps pastoral, et notamment à une méconnaissance biblique qui parfois était importante chez un certain nombre de pasteurs. Et ceci entraînait donc des erreurs doctrinales, des problèmes doctrinaux très importants, des problèmes pastoraux, etc. Donc, en 1909, un certain nombre de pasteurs anciens ont demandé que l'on crée une école biblique pour essayer de remédier justement à ce genre de problème. Cette proposition a été accueillie par une opposition considérable. Néanmoins, il a fallu se rendre à l'évidence que c'était quand même... Il fallait une solution. Il fallait une solution à ce problème. Et on ne voyait pas très bien quelle autre solution pourrait être apportée finalement qu'une école publique. De sorte que le 1er juillet de cette même année 1909, s'est ouvert à Londres la première école publique. Puis ensuite, en 1916, cette école publique s'est ouverte également à des filles, ce qui était aussi une hérésie par rapport à l'orthodoxie pentecôtiste. Il faut dire qu'assez vite, le mouvement pentecôte anglais a accepté le ministère pastoral féminin, jusqu'à aujourd'hui. C'est le pasteur Howard Carter qui est devenu le directeur de cette première école biblique qui se tenait dans le quartier de Paddington à Londres à cette période-là. D'autre part, il y avait aussi des oppositions à cette orientation du fait que l'on pensait que le retour du Seigneur était très proche, que somme toute les assemblées de Pentecôte qui étaient créées n'avaient pas besoin d'envisager un avenir très lointain et qu'il leur suffisait de tenir quelques années jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Bon, en 1909 toujours, un pasteur de Manchester qui appartenait à une église qui se réclamait de ces fameux groupes de sainteté qui avaient marqué la fin du siècle précédent, s'est converti. Il a découvert le baptême dans le Saint-Esprit, se nommait Nelson Parr, c'est un des grands noms du pentecôtisme britannique, et il est entré donc dans le mouvement de Pentecôte en 1911, officiellement reconnu dans les assemblées de Dieu, et il est devenu pasteur de l'église de Manchester en 1926. En 1911, en Angleterre, il y eut un grand souffle du Saint-Esprit sur des jeunes et sur les enfants. La jeunesse britannique fut très marquée par le souffle de l'Esprit de Pentecôte qui se manifestait alors dans le pays. Et pendant cette fameuse année, nombre d'enfants notamment ont été baptisés dans le Saint-Esprit. C'est en 1911 que Stephen Jeffreys, ancien mineur, a commencé à prêcher, tandis que son frère George entrait à l'école biblique. En 1908, une certaine Madame Niblock, qui était une baronne originaire des pays baltes, s'est convertie. Elle a été touchée par le réveil. Et de là, elle s'est rendue à Berlin d'abord, où elle a eu contact avec le pasteur Paul. Puis de là, elle est allée en Russie, en passant par son pays d'origine, Tallinn, en Estonie. Et de là, elle s'est rendue à Saint-Pétersbourg, en témoignant de l'expérience de Pentecôte. Et c'est par l'intermédiaire de cette personne que le message de Pentecôte a atteint l'Est de l'Europe, les pays baltes tout d'abord, et ensuite la Russie. La Russie, dans la mesure où une certaine fraction de l'Église orthodoxe vivait déjà ce genre de réalité, c'était quelque chose de nouveau, mais c'était aussi évidemment quelque chose qui était ancien, et les deux courants ont eu du mal un peu à se rencontrer à cette période-là. En 1910, ont été aussi créées dans les îles anglo-normandes, Jersey et Guernesey, trois assemblées qui dépendaient du mouvement d'Ilim, dont nous aurons l'occasion de parler dans un instant. Puis, depuis Zurich, où le pasteur Paul avait fait des missions en Suisse, le réveil est venu à Lausanne, donc dans la partie romande de la Suisse. Le 1er septembre 1908, un pasteur anglais, pasteur Lancaster, a prêché le message du réveil à Melbourne, en Australie. C'est ainsi que le réveil a touché les antipodes. Dans le même temps, la même année, le réveil était également prêché à Pretoria, puis à Johannesburg, donc en Afrique du Sud. Et là aussi, le réveil éclatait dans ce grand pays, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir quand nous parlerons notamment de l'épopée de David Duplessis. Les parents de David Duplessis ont été les premiers, parmi les premiers en tout cas, qui se sont convertis au moment de la venue du réveil en 1908 dans cette région-là. Le réveil en Afrique du Sud était essentiellement le fait de la foi apostolique, c'est-à-dire justement de ce mouvement qui avait pris naissance à Pénygrose, au Pays de Galles, dont nous avons parlé. Et c'était un élève de Murray, le grand docteur évangélique, n'est-ce pas, non pentecôtiste d'ailleurs, mais qui avait préparé le chemin au pentecôtisme par sa théologie du Saint-Esprit. Il s'appelait le pasteur Leroux, qui donc a créé la mission de la foi apostolique en Afrique du Sud. Dans le même temps, donc, cette foi apostolique s'affermissait également en Grande-Bretagne même, et en Écosse. En Écosse, où hélas, à cause justement des lacunes dans la formation des ouvriers dont nous avons parlé il y a un instant, il y a eu quelques manifestations de fanatisme qui ont contribué à quelque peu à discréditer le mouvement. Entre 1912 et 1914, l'épicentre du réveil était et demeurait toujours les conventions de Sunderland. Ces conventions attiraient de plus en plus de monde, pour une raison très simple, c'est que le réveil, d'année en année, grossissait, si bien que le nombre des participants aussi augmentait à chaque convention nouvelle. La convention de l'été 1914 enregistra une affluence record. Et notamment, les pasteurs allemands, groupés autour du pasteur Paul, étaient présents, comme chaque année, à cette convention. Et c'est alors que le Saint-Esprit a révélé, montré que cette convention à laquelle participaient les pasteurs allemands était la dernière. Et qu'on était à la veille d'événements extrêmement graves. Il faut dire que déjà, les bruits de guerre étaient importants et que dès l'année 1913, il y avait eu déjà des prophéties qui allaient dans ce sens. 1913, où la vallée de Swansea, au Pays de Galles, avait été évangélisée systématiquement par les frères Jeffreys en particulier, tandis que le pasteur Petrus était invité par les frères John et Howard Carter pour évangéliser la ville de Birmingham. La ville de Birmingham est devenue un des grands centres du pentecôtisme anglais à partir de cette période-là, notamment des réunions ont marqué cette ville à la suite de la visite du pasteur Lewis Petrus. Pendant que la mission européenne qui avait été créée donc aux conventions de Sunderland envoyait des missionnaires en Chine, les églises pentecôtistes d'Amérique du Nord avaient également le même souci d'évangéliser la Chine. Et dès 1909 aussi, donc au même moment que les Européens, les Américains créaient une union missionnaire d'Amérique du Nord. Et les premiers missionnaires américains sont arrivés au nombre de 5 à Canton, quelques mois après cette période-là. Et en quelques années, à la veille de la Première Guerre mondiale, il y avait en Chine plus de 400 missionnaires baptisés dans le Saint-Esprit qui prêchaient le réveil. Beaucoup de Chinois ont rejoint les églises de Pentecôte. Et puis aussi, dans ces années-là, il y a eu évangélisation de l'Égypte. L'Égypte, qui était un pays musulman, bien sûr, mais qui, à cette époque-là, était un protectorat britannique, ce qui fait que les missionnaires avaient liberté d'y prêcher l'Évangile. L'essentiel de l'activité des missionnaires, qui était en 1914, au nombre, en 1912 d'abord, 35, ils sont passés ensuite à 214. Et l'essentiel des activités était surtout au milieu des chrétiens égyptiens qui, on le sait, sont plusieurs millions, ce qu'on appelle les Coptes. Et au début, l'église copte officielle était assez ouverte aux choses du réveil. Puis, à cause du style un peu occidental des missionnaires, de certains excès peut-être qui ont marqué aussi, faut bien le dire, leur prédication, il y a eu une certaine fermeture justement de l'église officielle copte égyptienne. Néanmoins, la Pentecôte s'est implantée très fermement en Égypte jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et il y a aussi un travail social très important qui a été accompli par des femmes qui sont venues s'occuper de la grande misère qu'il y avait, hélas, au sein du peuple égyptien, qu'il y a toujours d'ailleurs, ça. Et donc des orphelinats, des hôpitaux, des dispensaires, enfin tout un travail social a été mis au point. Et lorsque les Anglais ont été chassés donc, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale d'Égypte, et que l'Égypte est devenue indépendante. Beaucoup de missionnaires ont été chassés, mais sauf ceux qui faisaient du travail social. Alors que le gouvernement égyptien, sous la période assyrienne notamment, était devenu très anti-occidental et très anti-chrétien, le président Nasser a décoré de ses propres mains certaines femmes qui faisaient un travail social tout à fait hors du commun dans la vallée du Nil. C'est en 1914 que sont nées aux États-Unis les Assemblées de Dieu américaines. Jusqu'alors, le mouvement de Pentecôte s'était développé d'une manière quelque peu anarchique. Enfin, anarchique, je veux dire sans lien. Les églises avaient des liens très lâches les unes avec les autres. Puis, elles se retrouvaient dans des conventions annuelles, pas national obligatoirement, vu l'étendue des États-Unis, mais plutôt régional. Et finalement, se sont posés un certain nombre de problèmes d'organisation, auxquels les assemblées locales ont donné des réponses différentes. Et c'est ainsi que très vite, le mouvement de Pentecôte américain s'est divisé en un certain nombre d'unions d'églises. La plus importante d'entre elles s'est donc créée en 1914 à Hot Spring dans l'Arkansas et a pris le nom de Assemblies of God, Assemblée de Dieu. Son premier quartier général a été à St. Louis au Missouri. Puis à partir de 1915, quand a été créé le journal national des Assemblées de Dieu américaines, le Pentecostal Evangel, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui a eu sa branche anglaise à peu près à la même époque, le quartier général des Assemblées de Dieu est passé à Springfield, où il est toujours jusqu'à nos jours. Springfield avait été choisi à la suite d'une prophétie qui avait été donnée à Los Angeles, dans l'église de la rue Azusa, disant que Springfield serait comme une source dont les eaux se répandraient dans toutes les directions. Et c'est ainsi, il en fut ainsi, effectivement. Les assemblées de Dieu américaines ont constitué là-bas un vaste ensemble, avec non seulement les quartiers généraux, mais également des maisons d'édition, centres pour les missionnaires, etc. etc. Dans la même période, les assemblées de Dieu britanniques, enfin les églises de Pentecôte américaines plus exactement, étaient petites en nombre comparées justement aux assemblées de Dieu américaines. Il y avait une grande extension du mouvement géographiquement, dans ce sens que on trouvait beaucoup d'assemblées, mais la plupart de ces assemblées, en Grande-Bretagne en tout cas, étaient petites. Il faut dire qu'il y avait, à cette époque-là, la prédication des évangélistes pentecôtistes était que les baptisés dans le Saint-Esprit restent dans leurs églises. Par conséquent, il n'était pas question que ces gens-là sortent de leurs églises pour aller grossir les petites églises pentecôtistes qui pouvaient se trouver là-bas. Très vite, il y a eu au sein des églises officielles britanniques une forte opposition qui est née à l'endroit du baptême dans le Saint-Esprit. Si bien que ce message, qui était quand même assez pertinent, à mesure où beaucoup d'églises britanniques à cette époque-là étaient fondées sur une théologie évangélique solide, et de fait, les chrétiens baptisés dans le Saint-Esprit n'avaient a priori aucune raison de quitter ces églises. Mais devant l'opposition à laquelle ils se sont trouvés confrontés à leur corps défendant, pourrait-on dire, beaucoup d'entre eux ont été amenés à quitter les églises évangéliques dans lesquelles pourtant ils avaient reçu le baptême dans le Saint-Esprit et à rejoindre donc les églises, les petites églises pentecôtistes qui étaient composées de gens qui s'étaient convertis dans la rue, qui n'avaient donc pas d'église de référence, beaucoup d'entre eux, ou de gens qui déjà avaient eu aussi quelques problèmes avec des églises beaucoup plus historiques, beaucoup plus officielles, beaucoup plus libérales, telles que des églises anglicanes, méthodistes ou autres, n'est-ce pas ? Donc il y a eu là apport de gens qui avaient une culture biblique solide et qui ont apporté une assise très forte, donc très biblique, aux assemblées de Dieu, ou enfin aux églises de Pentecôte, hein, ce n'était pas encore des assemblées de Dieu à cette époque-là, britanniques, mais qui ont aussi fait que ces gens-là étaient beaucoup plus exigeants, bien sûr, quant à la qualité des pasteurs que ceux qui, finalement, s'étaient convertis dans la rue. Et ça a été la richesse du mouvement de Pentecôte britannique de pouvoir compter, justement, cette assise solide de gens qui étaient des évangéliques nourris de la parole de Dieu. Et ça a été, au contraire, le grand drame des assemblées de Dieu françaises, de ne pas avoir, justement, de ne pas pouvoir bénéficier de gens qui avaient cette assise-là, pour une bonne et simple raison, c'est que la disproportion du nombre des évangéliques entre la Grande-Bretagne et la France était considérable. Bon, ça c'est comme ça, on ne refait pas l'histoire. Alors, il y avait aussi, toujours dans ces assemblées, dans ces églises de Pentecôte, dans la vision du mouvement de Pentecôte à cette époque-là, un grand zèle pour l'évangélisation. Et c'était d'ailleurs peut-être la marque essentielle du mouvement de Pentecôte à cette période-là. C'était un petit peu la continuité de ce qu'avait été le réveil salutiste d'une certaine manière. On en reprenait les méthodes, les slogans, l'enthousiasme, l'allant, le caractère, il faut bien le dire, un peu tapageur de cette évangélisation, n'est-ce pas ? Mais qui finalement passait assez bien dans la société britannique de l'avant-guerre. En 1914, alors qu'il se trouvait au sud du pays de Galles, au début de l'année, George Jeffrey, alors qu'il prêchait soudain, les auditeurs plus exactement, ont vu apparaître au-dessus de la tête du prédicateur la tête d'un agneau. Ça a été attesté par de très très nombreux témoins. Et cette tête d'agneau, qui a pris les traits d'une figure humaine au bout d'un temps, n'est-ce pas, est restée quelques heures encore après la réunion, après que George Jeffrey ait terminé sa prédication. Donald G. a pu confirmer lui-même l'authenticité de cette vision. Et les frères qui ont assisté à cette étrange vision ont conclu que cette apparition annonçait de grandes souffrances. En effet, on avait conscience, dans le mouvement de Pentecôte mondial à cette période-là, que l'effusion de l'esprit marquée était un signe eschatologique important et annonçait la proximité des temps de la fin. On se référait à la prophétie de Joël, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, hein, vos jeunes gens, vos jeunes filles auront des visions, des songes, etc. » C'est pas, avant que vienne le grand jour de l'Éternel. Et Donald G. notamment a noté que après la Première Guerre mondiale, il y a eu un temps nouveau. Plus jamais les choses n'ont été pareilles. Et l'élan du mouvement de Pentecôte a subi un frein important en Europe à partir de la Première Guerre mondiale. Et cela, la plupart des pasteurs, nombre de chrétiens pentecôtistes, de l'avant-guerre mondiale et de la durée de la guerre mondiale ont vu dans cet événement dramatique et terrible un des signes avant-coureurs de la fin. Et notamment, justement, une des manifestations de l'apostasie des temps de la fin, ils ont considéré que le réveil qui avait été donné, le réveil qui avait marqué donc la première partie du siècle, les 14 premières années du siècle, pourrait-on dire, était comme un ultime appel de la grâce de Dieu donnée à l'humanité. Et bien entendu, nous qui vivons bien après ces événements, à la fin du siècle, qui n'avons pas connu ni la période de l'avant-guerre mondiale, ni bien sûr la Première Guerre mondiale, nous avons du mal à entrer dans cette dimension, dans cette perspective, mais c'est intéressant de voir que les chrétiens de cette période-là ont fait la différence entre l'avant et l'après. En fait, on peut dire que pour la France, le temps de grâce est venu après la Première Guerre mondiale, entre les deux guerres essentiellement, et un petit peu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Si bien que aussi les chrétiens français, les chrétiens de la Pentecôte française, n'a pas eu cette même impression, mais la Pentecôte britannique a été très marquée par cette fameuse vision de Jeffreys, notamment, c'est pas cette tête d'agneau qui annonçait justement, qui a été interprétée comme ce que si le Seigneur disait, ce sera plus jamais pareil après quoi. Et de fait, ce ne fut plus jamais pareil. Même s'il y a eu encore des réveils, même s'il y a eu encore des grandes choses, c'était plus la même puissance de l'esprit, c'était plus la même conviction, le même élan, la même étendue des miracles, etc., etc. Donc 1915-1919, les années de cette terrible Première Guerre mondiale. En Angleterre, l'Angleterre ne fut pas beaucoup touchée par la Première Guerre mondiale. Elle était donc dans son île, et à cette époque-là, il n'y avait pas encore les moyens modernes de bombardement et choses semblables, si bien que la vie des églises pentecôtistes a été peu bouleversée par la guerre. Les conventions de Sunderland ont continué comme par le passé pendant les 4 ans qu'a duré le conflit, si ce n'est bien entendu que l'assistance était moindre, si ce n'est que beaucoup de jeunes étaient aussi sur le front. Le ministère des Jeffreys s'est poursuivi, par exemple, George Jeffreys a continué à évangéliser l'Irlande, où il a créé donc ici une nouvelle dénomination. Là, à la fin de cette période et pendant les années de guerre, l'évolution qui s'était produite aux États-Unis a gagné l'Angleterre, à savoir que les assemblées de Pentecôte, qui étaient plus ou moins autonomes, ont éprouvé le besoin, ne serait-ce que justement à cause de la situation nouvelle créée par la guerre, ont éprouvé le besoin de se structurer. Et les problèmes d'organisation sont nés également. Et finalement, s'est produit ce qui s'était produit aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a eu deux conceptions de l'organisation. Une organisation fédérative, mais assez lâche, disons, qui a pris donc le nom d'Assemblée de Dieu, à l'image de ce qui était donc le fait des États-Unis, et qui s'est trouvée donc en communion spirituelle avec les Assemblées de Dieu américaines. Et de la même manière qu'aux États-Unis, s'était créée aussi une union d'églises, enfin, plusieurs unions d'églises, mais une union d'églises qui avait une organisation beaucoup plus centralisée et qui a pris le nom de Church of God, Église de Dieu. De la même manière, George Jeffreys était partisan d'une organisation beaucoup plus centralisée que ne l'étaient les Assemblées de Dieu. Et c'est ainsi qu'il a créé The Four Square Gospel, l'évangile aux quatre angles, partant des quatre affirmations qu'on trouve à la fin des quatre évangiles, c'est-à-dire la fin de l'évangile de Matthieu qui insiste sur le fait que Jésus est sauveur, l'évangile de Marc insiste sur les miracles de guérison, n'est-ce pas, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, donc le caractère guérisseur de Jésus, pourrait-on dire. La fin de l'évangile de Luc qui insiste sur le don du Saint-Esprit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit, et puis si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, dit la fin de l'évangile de Jean parlant de Pierre, que t'importe, toi suis-moi. Donc Jésus qui revient. Et l'évangile de George Jeffreys tourner autour de ces quatre angles. Il appelait ça Four Square Évangile, l'évangile carré, l'évangile aux quatre angles. Les quatre angles étant donc les quatre points de son message, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise et Jésus revient. Ce Four Square Gospel est resté pendant longtemps le schéma de bien des pasteurs pentecôtistes qui n'appartenaient pas obligatoirement au mouvement des Four Square Gospel, mais était devenu le thème de leur prédication. Tout message de Pentecôte se devait de tourner autour de ces quatre points-là. Bon, d'une certaine manière, c'était un peu réducteur, bien sûr, parce que ça gommait bien d'autres aspects de l'Évangile. L'Évangile ne se résume pas, évidemment, à ces quatre angles, même si, effectivement, ces quatre angles sont importants. Et par la suite, le mouvement de Four Square Gospel a pris le nom de Elim. Elim, si vous voulez, en français, Elim en anglais, qui était une allusion à une des premières étapes des Israélites après la sortie d'Égypte. Ils sont arrivés à Elim. À Elim, nous dit le texte de l'Exode, endroit où il y avait 70 palmiers et 12 sources d'eau. Donc un endroit de paix, de bénédiction, etc. Elim, donc, était l'endroit de la bénédiction de Dieu. Et aujourd'hui, le mouvement de Pentecôte anglais se divise essentiellement entre ces deux mouvements, les Assemblies of God, of Great Britain and Ireland, les Assemblées de Dieu de Grande-Bretagne et d'Irlande, et le Elim Four Square Gospel, fondé par George Jeffreys. Elles ont à peu près la même théologie, avec quand même une légère différence, qui est que les églises d'Elim ne font pas du parler en langue le signe normatif du baptême dans le Saint-Esprit. Elles estiment qu'il peut y avoir d'autres manifestations que le don des langues pour attester que la personne a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Mais surtout, la grande différence entre les deux mouvements, c'est que les églises d'Elim sont beaucoup plus centralisées, beaucoup plus hiérarchisées que ne le sont les assemblées de Dieu. Il est tout à fait intéressant de constater que Douglas Scott, donc l'apôtre de la Pentecôte française, était en fait originaire des églises d'Elim, mais que le mouvement de Pentecôte qu'il a fondé en France s'est structuré sur le modèle des assemblées de Dieu américaines et britanniques, et il a pris aussi le nom d'Assemblée de Dieu de France. Le troisième mouvement, évidemment, était le mouvement de la foi apostolique, fondé par les frères Williams, et qui, donc, lui avait cette vision des ministères, notamment d'apôtres et de prophètes, avec les excès qu'un homme comme Nanaji dénoncera, par exemple, en disant qu'il y avait une institutionnalisation de la chose qui lui semblait dangereuse. Bon, aux États-Unis, il y a eu alors de nouvelles unions d'Église qui se sont créées, outre aussi donc la vision apostolique des frères Williams, qui a gagné également les États-Unis, mais il y a eu des mouvements de Pentecôte qui ont gagné les mouvements de sainteté. Tant et si bien que se sont créés à côté des deux grandes unions pentecôtistes américaines, Assemblies of God and Church of God, des mouvements comme Holiness Faith Mission, Holiness Pentecostal Church, qui, outre donc la foi dans le baptême dans le Saint-Esprit et la théologie pentecôtiste la plus classique, ajoute aussi la vieille idée wesleyenne d'une entière sanctification possible dès ici-bas pour celui qui est né de nouveau et qui s'acquiert par un acte de foi. Donc il y a finalement trois expériences sur lesquelles ces mouvements insistent, la conversion, le deuxième la sanctification, et ce n'est que finalement en troisième position, chronologiquement parlant, on s'entend bien sûr, que vient le baptême dans le Saint-Esprit et les dons spirituels. Donc c'est à Belfast qu'a été créé donc le mouvement d'Elim, et en 1917 le pasteur George Jeffreys a créé aussi un organe qui était l'organe des églises d'Elim qui s'appelle Elim Evangel, donc il reprenait pratiquement Pentecostal Evangel, Elim Evangel, c'était la même chose. Bien sûr, il y a eu des tensions entre les deux organisations et parfois des rivalités assez vives. Bon, quelques dizaines d'années après, à la fin du siècle, ces tensions sont en général apaisées et en général, il y a d'assez bonnes relations entre les deux mouvements qui se rencontrent fréquemment dans des manifestations communes, conventions, etc. Aussi bien sur le plan local, d'ailleurs, régional que national. En 1914, toujours, le pasteur Benton a créé une mission pentecôtiste au Congo belge. Et les Assemblées de Dieu britanniques ont toujours eu un souci très important pour le Congo belge. D'ailleurs, c'était là-bas que voulait se rendre également, vous vous en souvenez, le pasteur Douglas Scott, et qu'il était venu en France à seule fin, justement, d'y apprendre la langue, son but étant justement de rejoindre le Congo, qu'il atteindra de fait, mais des années plus tard, après avoir passé en France un temps beaucoup plus long que ce qu'il avait pensé, puisque arrivé en 1932, il quittera la France pour le Congo simplement en 1939, au moment de la déclaration de la guerre. Et c'est essentiellement chez les Baloubas que l'évangile de Pentecôte, s'est manifesté, ainsi que d'ailleurs les assemblées de Dieu britanniques ont établi aussi dans le nord de l'Afrique du Sud un certain nombre de missions. Bon, pendant la durée de la guerre, les assemblées de Dieu britanniques étaient confrontées avec la conscription. Il est évident que si les îles britanniques n'étaient pas envahies par les troupes allemandes, nombre de jeunes Anglais étaient mobilisés sur le front de France, n'est-ce pas, et ont combattu pendant les 4 années de guerre. La plupart des jeunes pentecôtistes étaient objecteurs de conscience. L'Angleterre, pays libéral, beaucoup plus libéral que ne on fait de la prison pour avoir refusé de porter les armes. C'est le cas notamment des frères Carter, John et Howard, qui ont passé un temps assez long en prison, donc comme objecteurs de conscience. Dans les assemblées de Dieu britanniques à cette période-là, sous l'influence justement de la foi apostolique, on commençait à insister sur les ministères d'apôtres et de prophètes, bien que on ne voulait pas en faire donc une doctrine, comme l'avaient fait les frères Williams. Et de fait, d'autres églises ont été touchées par décision venant justement de Pénygrose au moment où a été créé justement ont été créées les églises apostoliques. Dans le même temps, le réveil pénétrait en Italie. Par l'intermédiaire justement d'un pasteur suisse qui avait commencé par évangéliser la Suisse alémanique. Je me souviens que la Suisse était neutre dans le premier conflit mondial. Et la partie, vous le savez, sud de l'Italie, de la Suisse, et de langue italienne, la région de Lugano notamment, le Tessin, ça s'appelle. Et donc le pasteur Hermann Parli, qui était originaire du Tessin lui-même, s'est converti et a été baptisé dans le Saint-Esprit. Et là, donc, au lendemain de la guerre, la Première Guerre mondiale, il est passé en Italie, il est passé à la frontière, où il a prêché l'Évangile dans ce pays qui avait aussi été ravagé par la guerre. Et le mouvement de Pentecôte italien a connu un grand essor. Aujourd'hui, le mouvement de Pentecôte italien est un des plus importants d'Europe. Il est infiniment plus important que ne l'est le mouvement de Pentecôte français, par exemple. Il a évidemment un peu les mêmes faiblesses que le mouvement de Pentecôte français, c'est-à-dire qu'il n'est pas assis sur un fondement biblique solide comme le sont les mouvements de Pentecôte de l'Europe du Nord en particulier, mais il est assez saint, SAIN, n'est-ce pas? Et il a eu le bénéfice d'apôtres qui sont venus notamment d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie, n'est-ce pas? Hermann Parli a aussi créé une station de radio à destination de tous ces pays qui étaient marqués par le pentecôtisme, et c'est ainsi qu'il a créé ce qu'on appelle Radio Réveil, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, n'est-ce pas, qui a eu pour fin non seulement de prêcher l'évangile en Europe, mais ensuite aussi de prêcher l'évangile par les ondes à destination de l'Afrique. Bien, c'est en 1919 que a surgi en Grande-Bretagne un ministère aussi qui devait avoir un rayonnement mondial pour ce qui est du mouvement de Pentecôte. Il s'agit de Donald G. Donald G qui a commencé à servir Dieu, on pourrait dire, par la musique comme diacre. C'était un excellent musicien, un excellent pianiste et organiste. Et il était né donc à Londres en 1891. Il avait eu la douleur de perdre son père à l'âge de 9 ans, alors que lui était âgé de 9 ans, pas le père bien sûr. Et donc il avait été élevé par sa mère qui était membre d'une église congrégationaliste. Il s'était converti donc dans cette église congrégationaliste dès qu'il avait atteint l'âge de 14 ans et il était devenu organiste dans cette église congrégationaliste dans laquelle il était. Donald G., jeune, adolescent, n'avait qu'une seule crainte, c'est que le Seigneur l'appelle à son service et lui demande de quitter l'Angleterre pour aller en mission. Il vivait dans la hantise de quelque chose de ce type-là. Et c'est alors que, en 1913, il est entré en contact avec des pentecôtistes, des chrétiens pentecôtistes. Et cette même année, il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Il s'est marié à peu près à la même époque. Et lui aussi, donc, quand la Première Guerre mondiale a éclaté, il a refusé de porter les armes. Il est devenu objecteur de conscience, mais il a accepté un service civil. Il a travaillé dans une usine d'entretien, etc. Plus exactement, après avoir abandonné son travail de fabricant d'antennes publicitaires. Il se souvient de ce temps comme un temps difficile pour lui où il vivait dans la pauvreté. Parce que bien que l'Angleterre ne soit pas touchée par le conflit, les restrictions de nourriture, d'approvisionnement étaient extrêmement importantes. Et de fait, ce qu'il redoutait, s'est produit. Un jour, il a entendu l'appel de Dieu. Et notamment, le pasteur de l'église où il était lui a dit, « Bien, écoute, voilà, le Seigneur m'a montré que tu devais quitter ton orgue pour te mettre à son service. » Alors, j'y ai parti à toute vitesse chez lui, rentré chez lui, en proie à une terreur folle, refusant à fond cette suggestion. Enfin, il ne se voyait pas du tout. Et puis, l'Esprit du Seigneur a travaillé son cœur. Et puis finalement, il a accepté de tout abandonner pour suivre le Seigneur. Mais le Seigneur avait d'autres plans pour lui, il n'était pas question de l'envoyer en Afrique. Le Seigneur a commencé par l'envoyer à Édimbourg, où il est resté 12 ans. 12 ans pasteur d'une petite église à Édimbourg, en Écosse. Et très vite, Donald G., bien qu'encore très jeune, a émergé au sein des pasteurs pentecôtistes britanniques comme d'abord quelqu'un qui avait une grande connaissance de l'écriture, il était quand même d'origine congrégationaliste, quelqu'un qui était aussi un homme d'une intelligence supérieure à la moyenne et en même temps un homme extrêmement sage, extrêmement équilibré, de telle sorte que très vite on a fait appel à lui pour avoir des responsabilités nationales. Et en 1924, Donald G. a fait partie du groupe des 15 pasteurs pentecôtistes qui avaient pour charge d'élaborer la constitution des Assemblées de Dieu britanniques. Donc il en est un des auteurs. 4 ans plus tard, en 1928, il était invité en Australie, où l'Évangile avait pénétré, nous l'avons vu, avant la Première Guerre mondiale. Et notamment, il était déjà connu comme étant un docteur. Il avait été reconnu comme tel. Souvenez-vous qu'il y avait, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, une grande insistance qui était mise aux assemblées britanniques sur les ministères et sur les dons spirituels. Et Donald G. s'était fait remarquer par son enseignement équilibré sur cette question des dons spirituels. Et les assemblées de Dieu d'Australie avaient donc invité ce jeune pasteur à venir pendant 10 mois prêcher dans les églises d'Australie sur les dons spirituels. Et pendant qu'il était en route vers l'Australie, bien entendu par bateau, ça prenait longtemps à cette période-là, c'était pas, il n'y avait pas d'avion comme aujourd'hui, Donadji a eu un songe. Et il a vu un bateau qui errait sur la mer sans gouvernail. Et il a compris que ce bateau n'était autre que le mouvement de Pentecôte. Et le Seigneur lui demandait en quelque sorte de donner à ce bateau un gouvernail. Et c'est fort de cette vision qu'il a prêché donc en Australie, dans les églises d'Australie, une série de messages sur donc les 9 dons spirituels. Et à son retour d'Australie, les frères lui ont dit le bien qu'ils avaient reçu de ses études et lui ont demandé de les mettre par écrit. Ainsi est né ce grand classique qui est encore valable aujourd'hui et qui porte le nom des dons spirituels de Donadji, qui en est assez, je ne sais pas ça combien d'éditions pour ce qui est de la langue française, mais qui a été édité en langue anglaise alors à des millions d'exemplaires, qui a été répandu dans le monde entier, qui a été traduit dans toutes les langues, en allemand, en espagnol, etc., etc., et qui continue à être un classique absolument incontournable sur cette question, justement, des dons spirituels. En 1934, il a été élu vice-président des Assemblées de Dieu britanniques, et en 1945, il en est devenu le président. À partir de là, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, le ministère de Donadji est devenu un ministère mondial. Il a été invité dans le monde entier, notamment aux États-Unis. Il était un habitué des Assemblées de Dieu américaines, pour lesquelles il était la personnification même du parfait gentleman anglais tel que les Américains l'imaginent. Et il était apprécié pour son humour caustique, sa bonté, sa bonhomie, et puis évidemment cet enseignement unique qui était le sien. En 1950 est décédée donc sa première femme, Ruth. Et à cette époque-là, donc, le Collège biblique des Assemblées de Dieu de Grande-Bretagne, qui se trouvait à Londres même, a été transporté en banlieue, à la banlieue sud de Londres, dans le comté de Surrey, à Kenley. Et on a demandé à Donadji de prendre la direction du Collège biblique de Kenley. C'est pendant toute cette période où il a été à Kenley que Donadji a donné l'essentiel de sa mesure. Il était là, évidemment, exactement à la place pour laquelle il était fait, n'est-ce pas ? Son ministère de docteur a pu s'épanouir d'une manière très libre, non seulement parmi les étudiants qui venaient étudier à Kenley, parmi lesquels votre serviteur, malheureusement, après que Donadji soit parti, juste l'année où il venait de quitter, ce que j'ai beaucoup regretté, enfin bon. Et aussi parce que à Kenley était devenu une véritable plaque tournante. Il y avait constamment des visiteurs du monde entier qui venaient s'entretenir avec Donadji. Et puis aussi, c'était un endroit d'où lui-même rayonnait pour des voyages autour du monde pratiquement incessants. Donadji abandonna donc la direction du Collège des Assemblées de Dieu en 1964. Pour prendre une retraite très active, finalement, et il mourut brusquement le 10 juillet 1966. Donadji, non seulement était un pentecôtiste convaincu, et a eu donc un rôle très important sur le plan de la Pentecôte mondiale, il a été aussi pendant des années, à partir de 1945, le rédacteur du journal pentecôtiste mondial. Et ce faisant donc, il servait de lien, si j'ose dire, entre les différents mouvements de Pentecôte dans le monde entier qui se rassemblaient tous les 4 ans. Mais Donadji était aussi quelqu'un qui avait une grande vision de l'unité du mouvement de Pentecôte, qui fut effectivement, et qui est encore un des grands problèmes de ce mouvement. Et lorsque vint le mouvement charismatique, donc à partir des années 60, lequel fit comment dirais-je, fit grand bruit en milieu pentecôtiste, en sorte qu'il y eut des... il fut finalement rejeté. Donald G. fut un des rares grands noms du pentecôtiste, du pentecôtisme, qui appuya à fond le mouvement, le mouvement charismatique, et notamment le ministère de David Duplessis, ministère qui lui était contesté autrement. Mais Donald G. était aussi un redoutable polémiste, et il avait une plume qui était extrêmement acerbe quand il le fallait, et il fut un des apologètes pentecôtistes les plus en vue, les plus en pointe, n'est-ce pas ? Partout où le pentecôtisme était attaqué, Donald G. montait au créneau, et par ses écrits, par ses prises de position, il a contribué à donner au mouvement de Pentecôte, anglais d'abord, britannique disons, et ensuite au mouvement de Pentecôte mondial, une respectabilité, et aussi bien donc auprès des pouvoirs publics, aussi bien auprès des autres églises, que des autres mouvements de Pentecôte, n'est-ce pas ? Donald G. a réussi à donner ce caractère de respectabilité dont on se demande si autrement le mouvement de Pentecôte, le mouvement charismatique aurait pu naître. Donald G. dans ce domaine-là a été un homme qui a joué un rôle absolument considérable. Comme beaucoup de grands hommes, hélas, il a été souvent beaucoup plus apprécié hors de chez lui qu'en Angleterre même. Et en Angleterre même, il était contesté. On le trouvait trop timoré. On le trouvait pas assez pentecôtiste. On entendait par là donc pas assez exubérant, pas assez dans la culture pentecôtiste. Mais celui qu'on a appelé l'apôtre de l'équilibre, c'est pas parce que c'était la marque de son ministère, avait été apprécié dans d'autres endroits, n'est-ce pas ? Et Donald G. était un homme aussi qui avait une vision de l'Église universelle, qui ne rejetait pas les autres, et il a fait en sorte que assez vite le mouvement de Pentecôte anglais perde le caractère sectaire qui était celui des mouvements de Pentecôte latins notamment, et français en particulier, caractère sectaire qu'il a encore. Et on ne trouvait pas déjà, dans les années 60, cette espèce de rigidité vis-à-vis des autres, qui est la marque du pentecôtisme français, mais le mouvement de Pentecôte anglais était pleinement intégré dans le monde évangélique et protestant britannique, ça ne faisait absolument aucun doute. Et même si on pouvait contester ça et là tel ou tel point de sa théologie, il est certain que c'était quelque chose avec lequel on comptait au Royaume-Uni, tout comme évidemment dans le monde entier. Et à cette période-là, un peu avant la mort de Donald G., des grands théologiens comme Lucas Vischer au Conseil œcuménique des Églises à Genève ou d'autres aux États-Unis parler ouvertement de la troisième force du christianisme. Il disait le christianisme jusque maintenant était composé, des catholiques et des orthodoxes, disons, et des protestants. Et maintenant, il y a une troisième force avec laquelle il faut compter, qui est le mouvement Pentecôte, qui est le mouvement chrétien qui grandit le plus vite. Et alors, il y avait une véritable admiration à cette époque-là pour le pentecôtisme dans les milieux des églises historiques. On peut dire que si Donald G. n'était pas le seul auquel il fallait, qui aurait été crédité de cette vision positive, c'était quand même un des artisans essentiels. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?